Il y a un sujet qui est toujours intéressant dans le sport, c'est intégrer des nouvelles recrues. Et on va déborder un peu du sujet pour arriver sur Benzema, qui est en quelque sorte une nouvelle recrue qui est de retour donc dans l'équipe de France. Et il y a beaucoup de questions qui se posent justement sur le retour de Benzema. Je voudrais avoir ton avis là-dessus justement, parce que on sait qu'il traîne quelques casseroles derrière lui. Mais il y avait un groupe qui a été créé par Didier Deschamps depuis quelques années. Et le fait de réintégrer une personnalité comme Benzema, est-ce que tu penses que ça peut créer des problèmes au sein, comme on dit, au sein du vestiaire?
Moi, j'étais un anti-Benzema, parce qu'il voulait pas porter le maillot, il a jamais rien fait pour l'équipe de France. Je pense qu'il a mûri auprès de Zidane à Madrid, parce qu'il y a 3-4 ans, Madrid le sifflait. Zidane lui a dit, maintenant, t'arrêtes, change d'amis, tu fais comme moi, tu concentres-toi sur le foot, et il l'a réintégré. Après, Deschamps est intelligent. Il a vu que ses derniers matchs, après post-coupe du monde, il nous manquait une vraie pointe. La vraie pointe, elle est là, c'est Benzema. Alors, à une époque, moi, j'étais au Brésil, à la Coupe du Monde, c'était leader Benzema, mais c'était pas un vrai leader. Et là, je pense qu'ils ont parlé avec Deschamps, ils ont dû dire, tu seras pas leader, tu te mêles de rien, tu t'es en pointe, on va te donner des ballons. À gauche, Mbappé, Griezmann.
De l'autre Griezmann,
on,
oui.
On est une équipe de fous. Tu te concentres, mettre des buts. Et Deschamps, il est capable, comme tous ces gens intelligents, d'évoluer, de progresser. Et ça m'a fait changer d'avis. Moi, je pense vraiment, enfin, avec Benzema, si la mayonnaise prend, je vois pas qui peut nous battre en Coupe du Monde.
C'est pour enfin, un championnat d'Europe pour l'instant.
Un championnat d'Europe, mais moi j'étais à Moscou, j'ai fait toute la Coupe du Monde, on avait une équipe incroyable. Il nous manquait une pointe, Giroud est un bon gars, qui est bon de la tête, qui est fort, mais bon, il avait pas marqué de but. Très honnêtement, avec une pointe qui marque, je vois personne nous battre.
Le problème avec Giroud, on en parle, c'est effectivement le rapport entre Benzema et Giroud, avec les déclarations d'il y a un an, hein, grosso modo, où Giroud avait dit, où Benzema avait dit, je suis une Formule 1, Giroud c'est un karting.
Ouais.
On imagine la rencontre des deux hommes
non,
du
mais
côté
branche,
de Clairefontaine cette semaine.
Non, mais ça, il n'y a pas de problème, ils branchent un peu.
Ouais.
Moi j'ai des clients footballeurs, ils branchent toute la journée, c'est des jeunes. Ils sont tous avec leur casque à la PS, ils réfléchissent pas à ça. Puis Deschamps, il va cadrer tout ça.
Oui,
et puis Giroud, il est assez intelligent pour se mettre un peu en retrait. Giroud, il va être le plouf de l'équipe de France.
Ouais, ouais.
Voilà, Giroud, il a tout gagné. Il a tout gagné.
Mais oui.
Il gagne quoi en plus? Moi, je pense que Giroud, il a mûri, Benzema a mûri. Puis Benzema, s'il bouge d'une oreille, il sait qu'il a pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, il a une revanche à prendre par rapport à la France, par rapport à ses origines lyonnaises, tout ça. Il peut pas déraper, Benzema. C'est pas un Elka, il va pas craquer. Moi, je pense vraiment que ça va être un truc incroyable.
À suivre, c'est dans quoi, 3 semaines hein, maintenant. Hein.
Ouais.
Ça va arriver, ça va arriver vite. Je pense que visiblement tu vas suivre ça de très près, parce que je savais pas si tu étais fan de foot, mais visiblement.
Je trouve dommage que c'est pas dans un pays, on sait pas où c'est, on sait pas.
Oui, ah oui, c'est la particularité de ce championnat d'Europe.
Moi, ça fait 20 ans, je fais toutes les coupes d'Europe, tous les championnats du monde.
Comment ça, on ne sait pas où c'est?
Oui, ben c'est dans plusieurs pays.
Voilà. Alors, on n'a pas su prendre nos places, on ne s'est pas organisé. Moi, avec des copains, ça fait 20 ans, on fait toutes les compétitions. Et là, aussi, on ne sait pas où prendre les places, on ne sait pas dans quel pays. Ça, c'est un peu dommage.
Une question pour finir avec le foot et l'hymne des Bleus, interprété par Youssoupha. Je sais pas si tu l'as entendu, je vous en mets un petit bout.
Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, note-le, écris mon nom en bleu.
Alors bon, on peut pas dire que ce soit vraiment festif, c'est sûr. Bon, en tout cas, alors, je vous racontais l'histoire rapidement. Ça a été validé par la Fédé, hein, visiblement. Ça a été attaqué par le RN, évidemment. Défendu par la ministre des Sports. Et puis aujourd'hui, renié par Noël Le Graët, qui nous fait un rétro-pédalage magnifique en expliquant que, en fait, ce sont les petits jeunes du service com de la Fédé qui ont décidé de mettre ça en ligne pour agrémenter la liste des 26 joueurs annoncés il y a 10 jours par Didier Deschamps. Encore une histoire de community manager, hein. Je ne sais pas si vous en souvenez, ils ont bon dos, hein, les community managers. C'était la com' des Verts il y a quelques semaines qui stigmatisait les boomers et qui avait fait botter en touche Julien Bayou, qui expliquait que c'était un problème du community manager. Alors c'est un rappeur un peu controversé qui avait dans une de ses chansons clashé Zemmour en disant qu'il donnerait un billet à celui qui ferait taire ce compte Zemmour. Et dans une autre chanson, il disait qu'il rêvait que sa semence de nez Français, je cite, foutrait en cloque cette chaîne de Marine Le Pen. Alors bon, mais c'est de la chanson, c'est de l'art et donc c'est la liberté d'expression. Comment tu as jugé, toi, le fait qu'on ait cette chanson qui a été sélectionnée pour l'hymne officiel de l'équipe de France?
Alors aujourd'hui en France, tout est polémique, tout est fait pour que les gens se mettent les uns contre les autres. Moi, ça me fait rigoler. Moi, quand j'étais gamin, j'écoutais Renaud. Alors bon, ça reste des chansons. Moi, j'écoute pas ça. Mon fils, il écoute ça. Il me dit, c'est bien. Bon, ouais. Moi, je pense que
faut vivre avec son temps, quoi.
Bah, voilà, moi, le Gret, on va même pas en parler parce que c'est bon, quoi.
C'est catastrophique.
Il est dans sa dictature de sa fédération, c'est catastrophique quand on voit ce qu'il a dit sur les filles, sur tout ça. Bon, ça sert à rien de polémiquer là-dessus.
D'accord.
En ce moment, avec le Covid, c'est déjà tout est compliqué.
C'est un non-événement.
Oui, c'est un non-événement. C'est comme ça.
C'est sûr que c'est pas un air très entraînant. Alors qu'il soit fait par X ou Y, je m'en contrefous.
Alors, cela dit, on n'a jamais été.
C'est quand même un poète, quoi.
On a jamais été flamboyant au niveau des hymnes de l'équipe de France. Je vous en ai retrouvé quelques-uns. 1978. Alors, 1978, c'était ça.
Allez, la France, allez, ah oui, il faut
ah oui.
Licence 4.
On y est. Vous savez qui chantait ça?
Biga.
Bah non, c'était Jean-Pierre Foucault. Ah ouais. Oui, alors, Foucault. Ça, c'était.
Les jeux de 20h.
C'était en 78. Tu avais quel âge en 78? Coupe du Monde en Argentine.
6 ans.
Tu t'en souviens de l'Argentine? Oui, t'en souviens quand même?
Je regardais déjà le foot. Là.
82, bah, ça, tu t'en souviens.
Là, on a cassé la télé.
Hein ouais, on a balancé des un certain soir de Séville, on a explosé le poste. Et c'était elle qui chantait. Elle va arriver. Alors là, c'était Denis Fabre. D'accord. On a fait très fort. 1986, on était au Mexique. On avait fait une demi encore.
Oui.
Voilà. Et alors là, c'est un collectif formidable. Tenez, écoutez.
Souviens-toi, il était une fois Séville. Souviens-toi, les gens aimaient ce jour-là. C'est Lola. Ils mettent les stars en folie. Et 4 ans après.
Ah, viva les Bleus, il y avait Carlos, il y avait Sim, il y avait Patrick Sébastien, il y avait Herbert Léonard, il y avait Enrico Macias que vous avez entendu et bien, Sacha Distel. Alors ensuite, 1998, c'était un peu mieux 98.
Et Johnny, non ?
Ah, c'est après.
C'est après
98. C'était Youssou N'Dour et ouais. Axel Red.
Ça commence à se moderniser.
Ouais, voilà. C'est mieux là.
Voilà.
Et ma parole, le Gret n'était pas dans le choix du dernier morceau parce que.
Et évidemment 2002.
On est champions, on est tous ensemble, c'est le bon jeu.
On s'en souvient évidemment Johnny avec
le boss.
Bah oui, le King. Voilà. Bon, enfin tout ça pour dire que bon, on n'a jamais eu non plus des chansons formidables. C'est avec les équipes de France.
Une rétrospective pareille, on a l'impression d'être au Grand Prix de la chanson de l'Eurovision.
Oui, vraiment... c'est ça. Ah. Vous avez vu quand même qu'on a failli gagner.
Deuxième.
Ouais. Oui, ça m'a donné l'impression qu'il y a beaucoup d'Italiens à l'étranger, non ? Qui ont voté.
Pour la France, tu penses ?
Non, c'est les Italiens qui ont gagné.
Ah, pas d'accord.
Si t'habitais dans le pays du candidat, t'avais pas le droit de jouer. Mais tu pouvais... faire jouer des étrangers.
C'est-à-dire que tu ne pouvais pas voter pour ton pays, tu étais obligé de voter
comme
pour.
Comme il y a beaucoup d'Italiens à l'étranger, et puis c'est bien organisé des fois, depuis Naples ou Palerme, enfin je sais pas.
Ça reste toujours un peu politique, hein, vous aurez noté quand même en général. Cela dit, il y a eu une polémique, tu en parlais, encore une, voilà, le chanteur italien qui se serait drogué en plein milieu, la face caméra et tout, il a quand même passé un test pour prouver qu'effectivement, il s'était pas drogué. Non, c'est quand même terrible, quoi, d'en arriver toujours à des problèmes comme ça.
Oui, mais moi, je regrette quand même le comptage d'avant. Tu te rappelles?
France, one point.
One point. Ça durait la nuit, quoi. Là, il faut attendre le résultat des SMS payants, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Moi, ça. C'était un grand moment. Je regardais même pas les chansons, mais je regardais les résultats au tableau et à la craie.
Ah oui. Oh, mais là, ça nous ramène au début des années 60.
Poland, one point.
Allez, un autre sujet pour cette semaine, un sujet chaud, c'est la vaccination obligatoire. Vous l'avez vu. Alors, vaccination obligatoire ou pas pour une certaine catégorie de professionnels. Messieurs, vous avez la parole. Qui commence ? Guillaume ?
Oui, je veux bien commencer. On est toujours le pays un petit peu à l'inverse sur ces sujets. Moi, quand j'étais gamin, j'avais la rougeole, on a eu toutes les maladies. Aujourd'hui, les enfants ne l'ont plus. J'ai lu que l'an dernier, encore des enfants qui meurent de la rougeole en France. Bon, voilà. On ne pourra pas forcer les gens à se vacciner. Après, je pense que si on met le passeport vaccinal et que ceux qui ne sont pas vaccinés restent en France, bon, peut-être que ça leur plaira de ne pas bouger, j'en sais rien. Moi, je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir autrement que par la vaccination, même si on doit se vacciner tous les ans. Ça a quand même fait beaucoup de morts, beaucoup de proches. Moi, j'ai des clients jeunes qui sont morts. Au début, on rigolait, petite grippe, machin, truc.
Ouais, ouais. On a tous pensé ça au début.
Moi, dans l'entreprise, j'en ai une dizaine de touchés. J'en ai deux graves. Moi, je l'ai eu en janvier. Je suis pas sorti de chez moi pendant un mois. Je suis encore fatigué, j'ai encore des séquelles. Moi, la vaccination, c'est
évident.
Évident. Il y a des endroits, je suis vraiment très surpris. Au Japon, ils veulent pas se vacciner, tout ça. Il y a des pays zéro Covid. Hier soir, ils ont reconfiné Melbourne parce qu'il y a eu 25 cas. À mon avis, les pays d'Asie là qui veulent du zéro Covid, ça va devenir dramatique. Même pour leur économie, parce que moi, j'ai des clients qui sont bloqués là-bas. Le jour où ils vont pouvoir partir, ils vont partir. Ils y reviendront plus jamais. Ouais. Hong Kong, qui était la place financière. Zéro Covid et ils veulent pas se vacciner. Le Japon, à mon avis, il y aura pas les Jeux Olympiques parce qu'ils veulent pas se vacciner.
Ah, tu penses? Ben,
ils sont tous contre et ils veulent pas se vacciner et il y aura pas de Jeux. Je vois pas comment on peut faire des Jeux avec des gens pas vaccinés.
Ou des Jeux sans public alors.
Bah, de toute façon, oui. Normalement, il y avait que les Japonais qui étaient acceptés.
Hein. Oui. Et les athlètes, on les a encouragés et tous les coachs et compagnie à se faire vacciner. Ouais.
Jean-Paul, vaccination obligatoire ou pas pour une certaine catégorie de professionnels?
Par principe, j'aime pas trop le mot obligatoire. Voilà, je pense que la sagesse fait que on a éradiqué à Briançon la tuberculose. Voilà. Le BCG. Est-ce qu'il y a un seul Briançonnais qui est contre le BCG pour son fils, son petit-fils ou son arrière-petit-fils? Non.
Voilà, moi je dis obligatoire parce qu'on l'a souvent entendu, c'est pas obligatoire, c'est recommandé, mais ça sert à rien de recommander quelque chose.
Oui, mais de fait, je pense qu'il va y avoir des tas d'endroits où tu ne pourras pas aller, aussi bien les théâtres, les manifestations sportives ou autres, sans qu'on te demande ou un passeport ou un truc ou un machin, mais on va dire, monsieur, test. Voilà, un test. Donc les gens, tout naturellement, petit à petit, vont y arriver.
Oui, c'est ça, aujourd'hui on est fixé là-dessus, mais je pense que ça va vite évoluer. Parce que
En tout cas,
les Antilles disent liberticide.
Oui, mais enfin les Antilles, comment tu dis,
Bigard.
Bigard qui a fait l'Algérie.
Voilà. Un petit coup de Bigard.
Allez,
un petit coup de Bigard.
Concernant le pass sanitaire, vous en pensez quoi?
C'est une honte nationale, je compare. Il faut absolument mettre un signe distinctif, exactement comme on l'a fait pour les Juifs à la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi on ne nous met pas? Pourquoi? Dis-moi, c'est pas plus pratique de nous mettre un signe pour dire « je ne suis pas vacciné ». Je me ferai, je vais guérir tout seul avec mon corps et mes anticorps. J'ai pas besoin qu'on me colle dans le corps une merde qui ne risque que de m'apporter des emmerdements. Et ce n'est pas vrai qu'elle protège. Vous êtes vacciné, vous pouvez plus attraper le virus, si. Vous êtes vacciné, vous pouvez plus transmettre le virus, si. Alors dites-moi pourquoi je me ferai vacciner. Donne-moi une raison, vas-y. Si t'as des couilles, vas-y.
Voilà, ce à quoi Marlène Schiappa a répondu.
Pourquoi on n'a pas entendu le gouvernement à la suite de ses propos?
Le gouvernement doit s'exprimer à chaque fois que Jean-Marie Bigard boit un coup de trop et prononce des insultes et des menaces. Moi, je trouve que ça illustre vraiment les ravages de l'alcoolisme. Enfin, pardon de le dire, mais moi je suis...
Oui, ça m'a fait rire. Une réaction sur cette saillie de Jean-Marie.
Moi, ça me fait rigoler. Bon, Bigard, il s'emporte. Le confinement, il est comme pas mal d'entre nous. Il a dû picoler un peu trop. Et puis, moi, je pense que je connais un peu le personnage. C'est des gars, ils étaient sur scène tout le temps. Ils ont eu beaucoup de problèmes financiers. Je sais pas s'ils ont été beaucoup aidés, eux. Et je pense. moi, je pense qu'après, quand tu as des problèmes financiers, tu craques un peu. Bon, bah, c'est sûr, tu bois un peu. Alors aujourd'hui, il a dit des choses comme beaucoup, comme moi souvent. Tes paroles dépassent
ta pensée.
Voilà. Mais moi, je veux rire de ces choses-là.
Il faut mieux en rire.
Voilà. Y a des fois, Marlène Schiappa me fait pas rire du tout.
Oui, non, voilà. Mais là, je trouvais qu'elle avait fait une sortie qui était assez rigolote.
Pour moi, on peut parler de tout et rire de tout. Ouais. Donc moi, voilà, Zemmour, machin truc, tout le monde s'exprime. C'est pas pour ça qu'on est obligé de se taper dessus à chaque fois.
Non.
Voilà. Il me paraît quand même un peu fatigué.
Oui, c'est sûr.
Je pense qu'il doit être déçu de sentir que sa cote de popularité chez les humoristes baisse petit à petit. Et je pense
ça date pas d'aujourd'hui. Il commençait déjà avant le Covid à avoir.
C'était quand même une star à un moment.
Enfin, tout à fait. Oui. Il faisait le Stade de France. La dernière fois qu'il est venu à Digne, il a eu du mal à faire le plein. C'est un peu compliqué.
Tu as raison d'en parler un peu au passé quand même. Ouais. Mais je pense, je sais pas, il va retrouver des nouveaux copains, Dieudonné et compagnie. Voilà, ça va être le même groupe.
Je trouve ça dommage quand même.
Ouais. Enfin,
il faut lui reconnaître. Bon, tant pis, hein, c'est un certain talent.
Bien sûr. Qu'est-ce qui m'a fait rire, évidemment.
Tu sais qu'à Serge Chevalier, le président de l'office de tourisme de l'époque avait.
Il était venu.
Il était venu.
Oui, il y a quelques années.
Le président de l'office arrachait les affiches pour le spectacle. L'air de dire, c'était pas assez bien pour nous.
Ouais, ouais.
Alors, c'est con, quand même.
Avec ses histoires d'odeur dans les toilettes et tout, il faisait rire.
C'était très premier degré, mais c'est quoi.
C'est populaire, mais voilà. Et là, de le voir se gaspiller comme ça,
Le coup de prendre le mot passe sanitaire SS à la fin. Non, là, c'est minable.
C'est dommage.
C'est un peu la haine au pouvoir. Non, je trouve ça con.
Moi, je l'ai vu à la patinoire Briançon il y a un paquet d'années.
Ouais.
Et on parle de Dieudonné. Moi, j'écoute rire et chansons et j'écoute les sketchs de Dieudonné.
Il était énorme.
Et Elise Moon, il y a un sketch sur le bâtiment qui est terrible. j'écoute que ces sketchs-là parce que maintenant, c'est vrai que j'écoute pas, il m'intéresse pas. Bon, il prend les virages qu'il a envie. Un jour, j'étais dans l'avion en rentrant de Guadeloupe, assis à côté de lui. Donc, il me faisait pas rire, mais le principal, c'est qu'on arrive encore à écouter ces gens-là aux périodes où ils nous faisaient rire.
Voilà, exactement.
Après, c'est le public qui décide. Si demain, Bigard, il fait un spectacle et vide, c'est le public qui décide.
Exactement.
Dieudonné qui était excellent aussi dans Astérix et Obélix, si vous vous souvenez.
Il était
très drôle.
Je dois raconter une juste de Bigard que j'adore. Elle dure très courte.
Ouais.
C'est ma préférée. C'est un gars qui conduit sa voiture un peu éméchée. Il se fait arrêter par la gendarmerie. Donc il ouvre sa vitre et on lui dit. Gendarmerie nationale, il lui répond, t'avais qu'à travailler à l'école.
D'accord. Dieudonné, qui d'ailleurs, il y a quelque temps, a demandé l'asile politique à Erdogan. C'était la blague du jour. Je vais vous faire écouter une autre réflexion sur le côté liberticide. C'est le philosophe Raphaël Antenhoven. Écoutez ce qu'il dit, vous me direz ce que vous en pensez.
Il faut avoir une définition très étroite de la liberté pour trouver ceci liberticide. Une obligation comme le masque, par exemple, qui est une restriction de liberté, mais qui a pour objet de préserver les autres, correspond exactement à l'idée qu'on a tous de la liberté, qui est que ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. On n'est pas dans un monde liberticide quand la loi interrompt ma liberté là où commence celle de l'autre. Si la loi m'oblige à préserver l'autre de mes miasmes, la loi n'entame pas ma liberté. Elle préserve nos deux libertés dans une période particulière. Le pass sanitaire, c'est la même chose. On peut considérer que le pass sanitaire est liberticide, mais le passeport aussi, à ce moment-là. Et quant à moi, je dois dire, alors là, à titre personnel, j'ai toujours été favorable à l'obligation vaccinale. Pour une raison simple, c'est que le fait de ne pas vacciner les gens, ou de permettre aux gens de ne pas être vaccinés, maintient tout simplement un danger objectif pour des tas de gens. C'est mettre en jeu la liberté des autres. Comme il n'y a aucun argument en la défaveur du vaccin, à mon sens en tout cas, aucun recevable, j'étais plutôt partisan de l'obligation vaccinale et je ne vois rien de liberticide là non plus.
Voilà, réflexion de Raphaël Antenhoven.
Je suis assez d'accord. Et puis, je suis assez d'accord avec ces gens qui pensent la même chose depuis le début. Ça aussi. Il y a eu tellement de volte-face. Je le dis parce qu'il l'a dit dès le début. Et il continue à le dire. Il va peut-être s'avérer qu'il a raison. Parce qu'il y en a un peu marre aussi des gens qui changent d'avis. J'ai vu récemment chez Bourdin, Madame Le Pen qui s'est fait trier parce qu'elle disait le contraire de ce qu'elle avait dit.
Il faut faire attention à un moment, effectivement. Ouais, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on ressort tout facilement. Il faut faire gaffe à ce qu'on dit. D'ailleurs, fais attention, hein, parce que je ressors ce que t'as dit il y a deux ans.
Elle va peut-être chez le même caviste que Bigard.
Fortement. Non, mais ça montre quand même l'inquiétude de ces Français, puis qui râlent systématiquement. Tu leur dis de mettre un masque. Parce que quand tu connais les gens, et dans une petite ville comme la nôtre, on connaît les gens qui vaccinent actuellement. Ils ont vu étrangement ceux qui étaient contre les vaccins parmi les premiers, hein, qui venaient là en disant moi aussi je veux venir. Non, mais qu'on est fragile, on est gnangnang. Hein,
depuis le début, quand on fait les émissions ambiance confinement, etc., on conclut de la même façon, c'est mais taisez-vous. Ouais. Je dis ça poliment.
Soyez un tout petit peu moins égoïste.
Un sujet aussi qui m'a interpellé cette semaine, c'est le procès Tapie. Pour ces tapis, vous l'avez suivi, il va se tenir sans principal intéressé. Tapie, on le sait, est malade, donc atteint de plusieurs cancers. Mais en ce moment, il passe une période délicate. Il a demandé un report de 3 mois du procès afin de se retaper un peu. Refusé par le tribunal, argument, si on repousse, on ne pourra pas le juger avant 2022. Du coup, Tapie a demandé à ses avocats de ne pas plaider. Résultat, procès Tapie sans Tapie et sans défense.
Alors, je trouve que c'est un peu hypocrite. Enfin, j'ai la sensation, quand ils disent avant 2022, parce que apparemment, ils ont peur qu'il meure avant.
Ouais, peut-être. Donc, il faut se précipiter. C'est un peu cynique.
Tant que vous êtes encore un petit poil en vie, on va vous juger.
Ce qui est aussi un peu dégueulasse, c'est que ils ont aussi avancé comme argument que de toute façon, il pouvait très bien y avoir ce procès sans Bernard Tapie, que c'était pas grave. Ouais, s'il n'était pas là, c'était pas grave. C'est procès en appel. Hein.
Ouais.
Bah, Tapie, avec ce qui lui est arrivé, en plus, l'autre jour, il s'est fait taper dessus, il se bat contre la maladie. Moi, je juge pas sa carrière. Bon, il a fait de la politique, c'est son erreur. Et mais c'est un gars qui faisait du théâtre, de la télé. Il a toujours rebondi. C'est un gars qui est super costaud. Moi, je pense qu'on serait tous morts. C'est très français de juger les gens comme Chirac, comme Mitterrand, quand ils vont mourir. C'est tellement plus facile de leur mettre 2 ans de prison à tous ces gens-là ou 5 ans que de mettre de la prison à des gens qui mettent feu à une bagnole de flic. L'autre jour, ils ont été graciés. Donc, moi, la justice française. Je suis en totale opposition avec elle. J'ai pas du tout confiance, comme beaucoup de Français.
80%. Hein.
C'est la justice française syndiquée, extrême gauche, qui fait le mur des cons.
Tu es très radical sur le coup.
Je suis pas radical. Je suis juste. J'allais rajouter franc-maçon. Cette justice, moi, je croyais que Dupond-Moretti allait arranger ça. Il arrange rien du tout. Il se présente avec Macron, donc il rentre dans le moule. Dans le moule. Donc lui, il dit, faut pas mettre les jeunes en prison parce qu'ils s'arrangent pas en prison. Je suis d'accord. Il y a jamais personne qui s'est arrangé en prison. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et quand on voit tous ces gens, ces gendarmes, ces trucs, hier à Rumilly, moi j'ai une entreprise de métallerie à Rumilly, des jeunes qui attaquent au mortier les gendarmes. Mais c'est Rumilly, c'est Briançon. Tu dis, mais on est où? Il y a impunité totale. Et puis après, Tapie, bon, il a fait ce qu'il a fait. Il va mourir. C'est pire qu'un.
C'est un acharnement judiciaire.
Quoi. Oui. Sarkozy, moi j'étais pas un sarkozyste, mais Sarkozy prend 2 ans parce qu'il a voulu aider quelqu'un et puis il l'a pas aidé. Moi, on m'appelle 3 fois par jour pour que j'embauche le gamin, le machin, le stage. Dans notre vie, faut arrêter, quoi, 2 ans de prison. Et puis les autres, ils brûlent tous les week-ends, ils brûlent les commissariats, les gendarmes, ils s'enferment dans le truc. Les gamins, ils ont 15 ans et on fait rien. Moi, je suis en total désaccord avec cette justice-là et je pense que je suis pas le seul.
Est-ce que justement ça va pas nous amener vers un extrémisme?
L'extrémisme, je sais pas. J'ai peur que la prochaine fois, on ait le choix entre pas de choix, donc Marine Le Pen et Mélenchon. Moi, en ce moment, ce que je vois, on voit le pouvoir militaire, on voit les militaires qui commencent à
monter au créneau, tu veux dire?
Ouais. On sait pas comment ça va se terminer. Si un jour ils peuvent faire un coup d'État, demain ils disent aux gendarmes et aux policiers de plus bouger, c'est vite fait. Aujourd'hui, on en est là. Moi, j'ai discuté avec des gendarmes qui étaient venus ici pour les migrants. J'ai passé une soirée avec eux. Le week-end, ils allaient faire des renforts à Montpellier et à Toulouse pour les gilets jaunes. Pendant 1 an et demi, ils ont pris des sauts d'excréments sur la tronche. Ils n'ont pas eu le droit de bouger. Moi, je leur ai dit, mais pourquoi un jour, on vous dit de protéger Paris, vous n'y allez pas. C'est tout, c'est le seul. Il m'a dit, on y pense. Donc un jour, s'ils ne protègent pas Paris, les black bots, machin, ils vont raser Paris. Et là, on dira, faut peut-être faire quelque chose. C'est juste pas possible, cette impunité totale dans ce pays. Et ça pourra pas continuer. Donc c'est soit ça se finira à extrême gauche ou droite, avec des gens qui savent pas compter, donc la cata, soit le pouvoir militaire, comme on a eu à l'époque de Général de Gaulle, mais ça peut pas continuer comme ça. Ça fait 50 ans que personne fait rien. Macron, il est arrivé, il voulait faire des trucs, gilets jaunes, pandémie. Mais de toute manière, là, Marine Le Pen, qu'elle dise blanc ou noir, qu'elle boive ou qu'elle boive pas, qu'elle parle ou qu'elle parle pas, elle va être élue dans un fauteuil, ce coup-là ou le coup d'après. Parce que Mélenchon était un opposant, Mélenchon, il s'est pris à des juges, machin, il a perdu. Je vois pas qui, aujourd'hui, Macron, bah, il a autour de lui, la politique, enfin, moi, ça m'impressionne. Il y a 20 ans, il y avait des gens qui avaient un niveau politique. Aujourd'hui, quand j'écoute Castaner ou...
Ou Darmanin,
non mais ça me fait pitié, j'ai pitié pour eux. Le discours, vous aviez des gens il y a 20 ans qui avaient un niveau politique, on n'a pas ce niveau-là aujourd'hui. Donc je ne sais pas comment mais ça va se finir.
Le problème c'est qu'on faisait un reproche justement à ces gens qui avaient un niveau politique qui était justement trop politique et qui était un peu déconnecté de la base.
Quand un Juppé parlait, c'était un autre niveau que les gens d'aujourd'hui qu'on écoute, quoi, je veux dire. Quand tu vois Darmanin qui fait que des tweets pour mettre les uns contre les autres.
On a l'impression de se retrouver avec Trump, quoi. C'est vraiment
Trump, c'était bien parce que lui, il a dit des choses qu'il a faites et il y a moins de chômage. Alors, il y a plein de choses qu'il a faites débiles. Mais je veux dire, nous, ils disent des choses qu'ils font pas. Et Trump, tu peux pas lui reprocher de pas avoir fait les choses qu'il avait dit.
Non, c'est pour le côté Twitter et compagnie.
Oui, mais
je trouve un peu.
Parce qu'à l'intérieur, on a quand même vu passer, peut-être que je me trompe, un Cazeneuve qui semblait tenir la route.
Oui,
quand même,
tout à fait.
Avec les attentats, etc.
Cazeneuve, oui.
Pourquoi ces gens disparaissent? Parce qu'il a peut-être plus envie, mais il a disparu de la circulation. Et on nous met le petit Gérald de Roubaix à la place, qui est vrai, qui s'excuse, qui dit qu'il est toujours solidaire. Ça tient pas la route, oui, c'est pas.
On s'est retrouvé avec la manif de policiers, avec d'un côté Darmanin pour les policiers et de l'autre Dupond-Moretti pour la justice. Voilà, ils font partie du même gouvernement et ils étaient opposés. Comme disait Coluche, ils ont un numéro de cirque. Il y en a un qui coupe les oignons et l'autre qui pleure. Hein. Donc on se retrouve face à une situation un peu spéciale. Et ce sera le dernier sujet, les régionales qui arrivent à grands pas dans certaines régions. Justement, on envoie l'artillerie lourde, La République en marche. A dépêché notamment sur le nord, sur les Hauts-de-France, Dupond-Moretti. Question, est-ce que c'est le rôle d'un ministre d'aller sur le terrain pour des régionales, selon toi?
Non, puis Dupond-Moretti, moi je croyais qu'il allait réformer la justice, il en a grand besoin. Il se met dans la politique, il rentre dans le rang, on l'entend plus, je suis vraiment déçu. Moi je parle au niveau régional PACA, ce qu'ils ont fait là, entre la droite ou ce qui reste de la droite. Et
la République en marche, ils se sont mis ensemble, ils ont divorcé, ils se remettent ensemble, ils n'y vont plus.
C'est juste pathétique. Et là, je pense que l'extrême droite va passer, parce qu'en plus, Mariani, c'est pas une pipe. Et moi, je souhaite presque qu'il passe, parce que la dernière fois, ils se sont tous arrangés pour pas qu'il passe. Et puis, du coup, personne n'a pris conscience de ça. Donc là, si t'as deux, trois régions,
qui basculent,
ils vont dire, allez, ça y est, faut qu'on fasse quelque chose. Parce que
serait-ce que la région, les Hauts-de-France et PACA, ça risque d'être chaud.
Et si ça passe, et ben là, ils vont se dire, allez, on a un an pour faire bouger les choses pour les présidentielles. Parce que si ça passe pas, au présidentiel, on va se prendre un coup de pied dans le cul. Marine Le Pen, elle va passer au premier tour et on dira, ah, mais c'est bizarre tout ça. Mais là, ce qu'ils ont fait, Renaud.
Muselier.
Que je connais par ailleurs. Mais c'est n'importe quoi. Et là, les gens, déjà, ils en ont rien à foutre des régionales sorties de pandémie. Les départementales, tu sais, les départements, ça sert à quoi? Faire du goudron, tout ça, ça sert à rien. Donc, régional, départemental, faut réformer. Faut en faire plus qu'un. Mais les gens, ils vont pas aller voter. Et ceux qui vont aller voter, ils vont voter extrême. Parce qu'en plus, avec le bazar qu'ils nous ont mis là, mais ça, c'est ce qui me déprime en politique. Et c'est là où je pense que le niveau a vraiment baissé. Vous aviez un Philippe Seguin, mais je l'écoutais encore l'autre jour. Mais ils avaient des niveaux, ces gars-là. Mais quand je vois les niveaux d'aujourd'hui, je parle pas de gauche et de droite, tout ça, quand je vois le niveau, moi aujourd'hui, les mecs qui sortent des écoles, qui ont des bons niveaux, ils vont dans le privé. Et ceux qui sont en politique, c'est ceux qui n'ont pas le niveau, c'est tout. Je suis désolé de dire ça, mais voilà.
Le sondage, je t'interromps deux secondes, le sondage du premier tour pour PACA, c'est Mariani 43%, Muselier 33%, Felizia 12%, Governatori 6% et Isabelle Bonnet, représentante du PC, 2%. Donc, on y va tout droit.
Tout droit.
Ah, Mariani, là, a fait le trou, ça y est.
Ouais, parce que là, le pacte républicain, c'est fini.
Ah, bah,
c'est
la fini, question.
Ça. Non, bah, c'est fini.
Mais alors là, et ça sera ma dernière question. La stratégie de La République En Marche et peut-être d'Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est de faire gagner une, deux, trois régions au Front National pour éliminer définitivement la droite classique, puisque la gauche est déjà à la ramasse, pour se retrouver sûr face à Marine Le Pen aux prochaines élections.
C'est ce que disait Guillaume, oui. C'est...
Je ne sais pas s'ils ont des stratégies. Parce que l'autre jour, j'ai écouté une ministre de la République En Marche qui voulait se présenter, puis qui ne voulait pas se présenter, puis il disait que les ordres arrivaient de Paris, puis pas de Paris. Mais tout ça, les Français, ils s'en foutent, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on veut que le pays avance, on veut qu'il y ait des réformes, on veut qu'on relocalise, parce qu'on a vu que pendant la pandémie, tout était fait ailleurs, c'est le bazar. On veut qu'on fabrique des masques en France, on veut qu'on fabrique des tests.
Des microprocesseurs.
Des bagnoles, des machines à laver. Et ça, faut se bouger. Et c'est pas à faire des guéguerres comme ça qui intéressent personne. Blanc, noir, gauche, droite, tout le monde s'en fout. Maintenant, faut que ça avance, quoi.
Et ce sera le mot de la fin. Guillaume Le Bigot, merci.
Merci, bonne journée.
À dans deux ans.
À dans deux ans. Merci.
Merci Philippe, merci Jean-Paul. On vous souhaite un bon week-end et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un autre numéro du Coq à l'âne.